Galade 100.9.
Parlons de nutrition.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Nutrition. Aujourd'hui avec nous en studio, eh bien, comme à chaque fois, il y a Charline Simian, notre diététicienne, qui vient nous expliquer, nous parler de plein de sujets. Et puis on a une nouvelle personne à notre micro, c'est Christelle Rest, psychothérapeute, qui propose des thérapies comportementales et cognitives. Elle nous expliquera en quoi ça consiste. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Mathieu.
Alors aujourd'hui, on parle, dans la dernière émission, on parlait des pathologies liées au poids et à l'alimentation. Aujourd'hui, on va peut-être plutôt aborder le traitement, comment est-ce qu'on accompagne les patients. Et donc, avec vous deux, c'est comme ça qu'on... c'est le sujet du jour.
C'est le sujet du jour, effectivement. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, effectivement, j'ai souhaité avoir Christelle à mes côtés parce que suivre des patients qui vont souffrir de troubles des conduites alimentaires, on a vu qu'ils pouvaient souffrir également d'obésité, qu'ils pouvaient souffrir d'anorexie, de troubles vraiment enfouis, finalement, et prononcés, qui pouvaient être handicapants au quotidien. Et ces patients, souvent, ont besoin de ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, c'est-à-dire... plusieurs thérapeutes autour d'eux pour les aider. Alors, dans les pathologies qu'on va évoquer aujourd'hui, bien évidemment, il y a la diététique qui va rentrer en ligne de compte. Ça, c'est un petit peu mon côté que j'ai un petit peu développé, justement, un petit peu en psychologie, en me formant, mais rien ne vaut chacun sa profession. L'idée étant d'amener vraiment un accompagnement pluridisciplinaire autour du patient. Je vais te laisser te présenter, Christelle, et expliquer un petit peu comment tu fonctionnes et ce que tu fais.
Merci, Charline. Donc, je suis psychothérapeute en thérapie comportementale et cognitive. Les thérapies comportementales et cognitives permettent justement d'apprendre de nouveaux comportements et de nouvelles façons de voir les choses pour faire face à divers comportements anxiogènes.
Que peuvent être la prise alimentaire notamment.
Tout à fait, qui rentre dans le thème d'aujourd'hui, donc dans le cadre de troubles alimentaires.
C'est vrai que c'est quelque chose qui est anxiogène, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé au cabinet notamment d'avoir des patients qui, à l'évocation de leur compulsion notamment, se mettent à pleurer. Donc on sent bien que c'est une vraie problématique, que c'est une vraie douleur pour eux. Et c'est vraiment quelque chose d'important que les patients... puissent se sentir épaulés par les thérapeutes. Et souvent, en cabinet libéral, on est un petit peu seul face à tout ça. Et c'est difficile. Donc, c'est intéressant d'être accompagné par plusieurs thérapeutes dans ce genre de pathologie-là. Ça peut être aussi dans l'obésité.
Tout à fait, sachant qu'une complémentarité est nécessaire dans ce cadre et dans ce type de pathologie. Parce que on ne peut pas faire une seule chose pour résoudre un problème. Très souvent, on s'aperçoit qu'une complémentarité est indispensable. Donc, traiter l'aspect diététique dans une maladie comportementale alimentaire, c'est hyper important, c'est la base, bien sûr. Mais il y a un autre côté qui est l'aspect psychologique, sachant qu'il est évident... pour les thérapies comportementales, en tous les cas, de dire que les émotions sont le fruit de nos pensées. Mmh. Donc, quelqu'un qui a en effet un trouble compulsif, alimentaire, j'entends, s'il réagit comme ça, c'est qu'à la base, il y avait la pensée qui lui a déterminé un comportement et une émotion.
D'accord.
Quand tu parles de ouais. pleurs, c'est qu'il y a déjà... une pensée.
Alors en diététique, on parle effectivement parfois de manger ses émotions hein, pour les gens qui vont se consoler dans le chocolat ou dans le fromage même. Hein, on n'est pas obligé de se consoler qu'avec du sucre. C'est vrai que c'est des choses qui sont extrêmement liées. Il y a des écueils dans lesquels il faut éviter de tomber quand on est diététicienne parce que parfois le patient il vient voir la diététicienne parce que c'est peut-être moins facile, enfin moins compliqué, pardon, que d'aller voir un psychologue ou quelqu'un dont la profession commence par psy, parce que parfois psy, ça fait un peu peur. La diététicienne, elle va être entre guillemets, forcée d'écouter. Malheureusement, la diététicienne, elle se retrouve parfois dans une situation un peu compliquée parce qu'elle sait écouter, mais elle ne s'est pas renvoyée. Donc parfois, elle se retrouve un petit peu en porte-à-faux. On l'avait évoqué hein, quand on a préparé cette émission, d'ouvrir une espèce de boîte de Pandore et de ne pas savoir ce qu'il y a derrière et de laisser repartir le patient comme ça. C'est vrai que ça peut parfois être compliqué en diététique, j'imagine, chez toi aussi.
Tout à fait, parce que c'est vrai que quand on travaille, quand on vient voir un thérapeute... J'ai enlevé le psy volontairement. Quand on vient voir un thérapeute, c'est parce que très souvent, on dit, voilà, j'ai peut-être un petit souci, j'ai quelque chose qui m'handicape, mais sans plus, ça va vite se régler. Mais tu parlais tout à l'heure de boîte de Pandore, oui. C'est que quelquefois, on peut lever un voile et c'est là la difficulté. La personne n'a pas forcément envie de parler de toute sa vie, partir dans une analyse, une psychothérapie analytique. Et en effet, avec... les thérapies comportementales, on travaille plus sur l'instant présent, sur le comment. Et si on doit travailler sur les passés, c'est pour travailler l'histoire du trouble et non pas la vie de la personne.
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que je vais faire au cabinet. Les patients sont un petit peu étonnés parfois par ma prise en charge. C'est pour ça que quand ils viennent au cabinet, je leur explique un petit peu comment je fonctionne. Parce que souvent, le patient qui vient voir une diététicienne cherche quand même un plan alimentaire et parfois ils repartent pas avec un plan alimentaire de chez moi. Parfois ils repartent avec une carte de visite pour aller voir justement quelqu'un qui sera plus adapté à la prise en charge. Et puis m'étant formée un petit peu notamment en PNL. Alors la PNL, c'est une programmation neurolinguistique, c'est quelque chose qui va permettre au patient de revenir au cœur un petit peu de son suivi et de sa prise en charge, parce que parfois le patient, autant chez toi que chez moi, il vient chercher un petit peu une baguette magique, quelque chose d'un peu miraculeux, chose qu'on a à mon sens ni l'une ni l'autre. Et du coup, je travaille dans ce que tu dis, avec cette espèce de ligne de vie. Pour resituer, quand j'ai un patient face à moi qui me dit moi de toute façon je suis gros et j'ai toujours été gros, parfois rien que de repartir du ah vous étiez gros, d'accord, quand vous êtes né, qui vous l'a dit, comment est-ce que vous le savez, ça permet de resituer. Et parfois le patient, enfin non, pas parfois, très souvent, il y a une vraie date, il y a un vrai début. Le patient cible tout seul le moment de début du trouble ou en tout cas du surpoids.
Et même si ce n'est pas forcément la solution de savoir le pourquoi, c'est très souvent, dans ce cadre, indispensable.
Oui.
Pour pouvoir démarrer de quelque chose. Parce qu'il faut qu'il y ait un sens. Il faut qu'il y ait une logique. Parce que sans logique, la personne ne sait pas faire. Le cerveau ne sait pas faire. On a besoin d'être dans une logique. Sa propre logique, mais on en a besoin. Donc, et c'est important de savoir à partir de quand on va démarrer.
C'est vrai que c'est très important, on le voit hein, chez les patients, parfois rien que de poser les mots, je pense que tu l'as vécu, hein, de dire, mais en fait, quand on regarde, quand on analyse, peut-être qu'ici, il s'est passé quelque chose, le patient est soulagé de se dire finalement, ça n'est pas que de ma faute. Parce que dans ces troubles des conduites-là, il y a énormément de culpabilité, il y a énormément de honte de soi, de sentiments d'échec permanent et perpétuel, même vis-à-vis des familles. Parfois, la famille qui dit, de toute façon, il est gros parce qu'il ne fait pas attention. Et ça peut être d'une extrême violence. Et finalement, le patient, quand il décroche un petit peu de ça, on part sur quelque chose qui peut être intéressant.
Oui, parce que déjà, il y a une prise de conscience. Et c'est de cette prise de conscience, de par l'entourage aussi, peut permettre d'être ramené à soi-même quand dans ce type de trouble. Et il est vrai que l'important est d'arriver à faire déculpabiliser. La personne se sent responsable, mais surtout, ce qu'il faut lui faire admettre, c'est qu'elle est responsable de ce qui va maintenant lui arriver.
Oui, c'est ça, partir sur une nouvelle chose.
Parce que le passé, il est passé, on ne peut plus rien y changer. Maintenant, avec tout ce que j'ai, tout ce que je connais, sur quoi maintenant je peux redémarrer pour pouvoir travailler et arriver à trouver, on va dire, un mieux-être.
C'est vrai. Ce qui est compliqué, c'est que souvent, le patient, quand il arrive en diététique, il cherche à soigner le symptôme majeur, le symptôme visible ou invisible d'ailleurs. Hein, parce que quand on parle de patientes qui vont souffrir de boulimie, par exemple, on l'a vu hein, sur la dernière émission, le poids est parfois et même souvent plutôt normal. Et donc, c'est là où c'est... problématique parce que finalement, bah, le symptôme, on ne le voit pas non plus. Et souvent, quand les patients arrivent, il y a vraiment cette notion de mal-être. Maintenant, il y a aussi quelque chose. On évoquait tout à l'heure la nécessité d'une pluridisciplinarité avec ce socle dans ces maladies-là diététiques. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a peut-être évoqué, mais à demi-mot la dernière fois, sur la dénutrition. Parce que la dénutrition, finalement, fait que le cerveau, c'est, chez les patientes qui vont souffrir d'anorexie, par exemple, auto-grignoter un peu, parce qu'on n'est pas assez nourri. Et donc, la pensée anorexique va pouvoir se développer, prendre le dessus. Et on a des patientes qui s'épuisent à penser que à l'aliment et qui, finalement, dans leur raisonnement, dans leur fonctionnement cérébral, vont... on va avoir de la difficulté à accéder parce qu'elles seront dénutries. Donc le travail de la diététicienne à ce moment-là, c'est de renutrir la patiente pour que le travail psychologique, ou en tout cas en TCC ou autre, puisse être efficient finalement, hein, fonctionner. Mm-hmm. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, mais... tout à fait, parce que bon, aujourd'hui, on a de nombreuses études qui ont pu le souligner et qui ont souligné l'intérêt des TCC. C'est de traiter l'affection... des affections psychologiques comorbides, c'est-à-dire des affections qui sont en lien avec, par exemple, tu parlais d'anorexie. Donc la dépression fait partie des pathologies qui sont très souvent associées aux troubles de l'anorexie. Donc le but est de pouvoir modifier justement ces croyances dysfonctionnelles. Tu parlais de ne pas vouloir grossir, donc de ne pas manger, ce qui amène à une dénutrition. Donc ça va, le but, c'est de détourner de cette croyance pour pouvoir acquérir une autre façon de pouvoir voir les choses et en travaillant justement sur ses pensées et puis en agissant également sur l'émotionnel et en bien sûr travailler sur la dépression. Ouais. Évidemment.
Alors, il faut bien s'imaginer que là, dans les pathologies qu'on évoque, on est dans ce qu'on appelle une pathologie du lien. C'est-à-dire que très souvent, il y a une maladie soit du lien familial, soit aussi du lien à son corps avec ce qu'on appelle une dysmorphophobie. C'est-à-dire que la patiente qui va souffrir d'anorexie se voit grosse, alors que tout l'entourage la voit squelettique. C'est aussi valable chez les patients obèses, qui, quand ils perdent du poids, notamment avec une chirurgie bariatrique, donc une chirurgie de l'obésité, vont se voir encore gros.
Exactement.
Vont aller dans les rayons des magasins et aller au rayon XXXL. Mmh. Alors que finalement, parfois, ils rentrent dans un 44, 42. Et c'est des choses qui sont vraiment caractéristiques de ces pathologies-là, cette maladie du lien, ouais. Du lien à l'autre et aussi du lien. Moi, j'en parle sous ce format-là en essayant de les faire redescendre de leur tête pour aller dans leur corps quand ils vont manger. Alors, je ne sais pas comment toi, tu approches ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel, finalement.
Oui, parce que travailler l'émotionnel, c'est la base. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il est vrai que modifier les croyances dysfonctionnelles, comme par exemple, tu disais, je suis gros. La réaction peut être aussi, je suis gros et personne ne m'aime. Ça fait partie également des croyances donc, qui vont contribuer aux troubles alimentaires. Donc, et qui peuvent maintenir une mauvaise estime de soi. Parce que la base, elle est aussi là.
Oui, tout à fait.
L'estime de soi, la confiance en soi. Donc, le regard que l'on a vis-à-vis de soi. Donc, c'est aussi de travailler cet aspect pour pouvoir renouer avec soi-même.
Je vous interromps, on va faire une petite pause musicale. On arrive à la moitié de cette émission. On continuera de parler de ce sujet-là, donc comment est-ce qu'on peut traiter des pathologies liées à l'alimentation, que ce soit sur l'accompagnement psychologique et l'accompagnement de diététicienne. Petite pause musicale, on écoute Cosmic Girl de Jamiroquai sur Calade. She was from
Parlons nutrition.
Et oui, vous êtes bien dans Parlons Nutrition et nous sommes aujourd'hui avec Charline Simian et Christelle Rest, psychothérapeute. Et on va parler dans cette seconde partie d'émission de l'alliance thérapeutique pour soigner les troubles alimentaires.
En effet, merci Mathieu. Merci. L'idée, effectivement, dans cette deuxième partie, c'est d'évoquer cette fameuse alliance thérapeutique hein, qu'on a déjà évoquée en première partie, qui est finalement l'essentiel. Alors, l'alliance thérapeutique, elle consiste à étayer le patient et à l'aider à se prendre en charge. On parlait tout à l'heure, tu sais, de cette fameuse baguette magique qu'on a ni toi ni moi.
Oui, non. Ça serait bien, mais non.
Ce serait bien, mais non. Et en réalité, c'est aussi amener le patient dans cette réflexion-là. Parce que de la baguette magique, alors en diététique, on lui en a vendu. Hein. On lui a vendu du régime qui marche. On en est sûr qu'on vous offre même une semaine gratuite tellement qu'on est sûr que ça va marcher. On lui a vendu du suivi dans divers instituts. Donc l'amaigrissement, c'est un truc qu'on lui a vendu vraiment de la baguette magique. Parfois, quand il arrive chez la diététicienne, il aimerait bien qu'elle ait une baguette magique, mais elle ne l'a pas. Et je pense que chez un thérapeute, c'est un petit peu de la même chose, finalement.
Tout à fait, car s'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de pérennité dans le mieux-être et des bons résultats qu'on veut obtenir. Il est vrai que la baguette magique dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être facile, mais si on veut quelque chose à long terme, faut travailler d'une façon différente. Donc la prise de conscience est importante, sachant que l'émotionnel vient de nos pensées et également établit un comportement. La qualité de la relation thérapeutique, c'est d'abord peut-être de parler de la relation de collaboration que le thérapeute va mettre en place avec le patient.
Oui, et pas pour le patient.
Pas pour le patient.
Faire à la place de, ça n'aide pas toujours.
Pas du tout. Car moi, je peux toujours faire des choses qui me conviennent. Je peux toujours prendre les clés de ma voiture pour ouvrir ma voiture. Simplement, si je les donne à la personne qui est en face de moi, je ne pense pas que ça puisse ouvrir sa voiture.
Exactement.
Donc, il faut trouver d'autres clés. Et les siennes, elle les a. Elle a les clés de sa maison, elle a les clés de sa voiture. Simplement, il faut arriver à les trouver.
Dans le fond du sac à main.
C'est ça, exactement. qui est parfois très, très encombré. Il suffit de voir le mien. Donc, dès qu'on trouve une clé, voir quelle porte elle ouvre.
Oui.
Le principe d'une thérapie, c'est également de la commencer en disant, j'ai tel et tel problème ou en tous les cas, gêne. Et comment je peux faire? Par quoi je peux commencer? Et par la confiance qui va s'instaurer, c'est de se dire aussi, en effet, on a une pelote de laine en face de soi. On va tirer un fil. On va voir déjà si le fil est long ou court. S'il est plus ou moins long, on va voir jusqu'où ça nous amène. Et si ça nous amène vers quelque chose de positif, on va le tirer jusqu'au bout. Et puis s'il est très court, on sait très bien qu'il faudra prendre un autre chemin.
C'est rigolo, ouais. Parce que ce genre d'image-là, je la compare moi à ce que je propose et ça se rejoint tout à fait. Hein. C'est que le patient, souvent, il veut partir dans toutes les directions. En diététique, il y a je vais enlever ci, je vais faire ça, je vais manger plus lentement, je vais faire du sport. Et en réalité, au cabinet, je leur dis, attention, si on part sur tous les chemins, on va aller nulle part. Il vaut mieux peut-être emprunter un premier chemin.
Tout à fait.
Et puis, au milieu de ce chemin, se dire, là, ça commence à devenir trop dur, notamment sur juste une application de programme alimentaire, en tout cas de rééquilibrage alimentaire. Et puis de dire, là, j'ai l'option sport qui s'ouvre à moi, j'ai perdu un peu de poids, je me sens un peu mieux et je vais fonctionner. Et j'ai le sentiment que vraiment, en TCC, c'est comme ça aussi
Exactement.
Qu'on fonctionne.
Ouais. Tout à fait. Lors des objectifs qui sont établis, et établis par le patient, c'est-à-dire que c'est le patient qui se met un objectif en place, on va également travailler avec ce que j'appelle des devoirs à la maison. On travaille bien sûr pendant la séance, mais à la sortie, on ne laisse pas tomber, on continue. Donc, la mise en place d'action par rapport à l'objectif donné, ça va être en effet l'application également de principes nutritionnels, mais c'est aussi arriver à mettre en place des choses qui qui font plaisir. Retrouver, se retrouver, pour retrouver déjà un apaisement vis-à-vis de soi. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Mais quelque chose qui est tout à fait factuel. Réalisable et réalisable surtout, et atteignable. Pas quelque chose, bah oui, de toute façon, je vais mettre en place tous les jours une demi-heure de footing, alors que la personne ne pourra sans doute pas le faire. Donc, mettre en place quelque chose qui est important pour la personne, mais surtout réalisable et atteignable.
Des objectifs peut-être à plus court terme qui échelonnent jusqu'à arriver à la réussite de l'objectif final qui serait d'aller mieux, de perdre du poids. Oui, je suis tout à fait d'accord. Souvent, moi, je le figure avec plutôt un escalier en disant, bah, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est face à un escalier avec des marches qui ne sont pas du tout à la bonne hauteur. On va peut-être raboter les marches et puis surtout, on ne va pas essayer de monter les marches 4 à 4 parce qu'on va se casser une patte dans l'escalier et ce n'est pas le but. En fait, l'idée qu'on évoque depuis tout à l'heure toutes les deux, c'est véritablement cet apaisement, cette acceptation aussi. Et puis, de partir vraiment avec des objectifs, des choses qui correspondent à chacun, parce que finalement, de l'objectif de perte de poids, je pourrais très bien donner le même programme à tout le monde et ça fonctionnerait.
Exactement.
Et je pense que dans ton cadre, c'est la même chose. Si tu proposes la même, le même objectif, les mêmes devoirs à la maison à chaque personne, bah, la clé n'ira pas dans la serrure et ça ne marchera pas non plus.
Bien sûr, puisque chaque personne est différente. Et il faut s'adapter.
Et singulière, et c'est une richesse, finalement.
Exactement, tout à fait.
Et tous ces régimes dont on parle hein, en diététique, je reviens toujours un petit peu à ma diététique, mais c'est vrai que quand on vend un même programme à tout le monde, il ne faut juste pas oublier qu'on est tous singuliers, que c'est une richesse, et en même temps, donc, ça ne peut pas fonctionner pareil pour tout le monde. Oui, je voulais revenir sur le fait que ces maladies-là sont des maladies qui ont un impact social, et en même temps, qui guérissent. C'est-à-dire qu'on peut guérir d'une anorexie, guérir vraiment, pas être juste temporairement mieux, mais vraiment dans une guérison. Pour cela, il y a vraiment un besoin d'être suivi par un médecin, bien évidemment, pour tout ce qui est bilan nutritionnel et sanguin, bien évidemment, pour tout ce qui est bilan d'ostéoporose notamment, et puis un psychothérapeute de votre choix. On a vu la TCC aujourd'hui qui me semble personnellement assez intéressante.
Oui, dans il y a bon retour là-dessus. C'est vrai qu'il y a très bon retour au niveau des chiffres, très bon retour de l'accompagnement des thérapies comportementales et cognitives pour les troubles alimentaires.
Donc c'est vraiment pour ça aussi que je voulais que tu interviennes aujourd'hui, c'est que ça me semblait quelque chose de très adapté pour ces pathologies-là. Et puis on peut l'associer à de la sophrologie par exemple, parce qu'on est vraiment dans cette idée du lien du corps, de l'acceptation du corps aussi. Parfois le but quand le patient vient en diététique, c'est de perdre du poids, et au final on peut aussi être amené ensemble, toi, moi et le patient, à travailler sur une sorte d'acceptation du corps peut-être pas idéal qu'on avait idéalisé.
Exactement, c'est pour ça que la psychoéducation est très importante, d'expliquer le pourquoi du comment. Comment je peux aller mieux et qu'est-ce que je peux mettre en place. Et au moment de découragement, il est important aussi de savoir pour le patient qu'il est bien sûr appuyé et accompagné par son thérapeute. Justement, le but, c'est aussi ça, de ses devoirs à la maison dont on parlait tout à l'heure. Et puis surtout, c'est aussi de réaliser qu'on peut avoir d'autres façons de raisonner, de penser. Et en agissant justement sur cet émotionnel, notamment par aussi de la méditation pleine conscience, qui fait partie des outils des thérapies comportementales. Donc, prendre conscience de ce qui se passe en soi, et de pouvoir justement faire tout doucement le lien entre ce que je veux pour moi et ce que je suis capable de faire, et d'y aller petit pas par petit pas.
C'est vraiment cette idée-là de rééducation, petit pas à petit pas. Je pense qu'on va pouvoir vous laisser sur cette petite note-là de on avance, mais pas à pas de géant, parce que parfois on saute des étapes quand on va à pas de géant.
Et oui, effectivement, l'émission Parlons Nutrition touche à sa fin. Merci Charline et merci également à Christelle Rest. C'était donc Parlons Nutrition. Merci à toutes les deux. Et puis vous retrouvez cette émission sur notre site internet en podcast.
Merci Mathieu, à bientôt.
Merci Mathieu, merci Charline de m'avoir invitée.
Galade. 100.9.
Parlons nutrition.